On en parlait dans le journal. On vote aujourd'hui en Irak pour des élections législatives anticipées. Un scrutin présenté comme une concession des autorités aux manifestants qui s'étaient mobilisés par dizaines de milliers il y a 2 ans tout juste pour demander du changement, moins de corruption, plus de services publics notamment. Pourtant aujourd'hui encore, on s'attend à ce que le vote soit marqué d'une très forte abstention. Alors pourquoi ces élections n'ont que peu de chances d'être celles du renouveau? On va voir ça tout de suite avec notre invité de la mi-journée. Bonjour Arthur Quenet.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques, affilié à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auteur également de l'ouvrage qui s'intitule « La guerre civile irakienne, ordre partisan et politiques identitaires à Kirkouk 2003-2020 », un ouvrage paru aux éditions Cartala. Vous vous trouvez également actuellement en Irak, hein, Arthur Quenet. Quand elles ont été annoncées en mai 2020, ces élections législatives, Arthur Quenet, elles avaient soulevé beaucoup d'espoir, hein. Pourquoi ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui? On a l'impression que c'est plutôt les élections du désenchantement, hein, qui ont lieu ce dimanche.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on ressent ici en Irak. Quand elles avaient annoncé l'année dernière, ces élections ont été perçues comme une concession de la part du gouvernement. Concession après un mouvement qui a fait plus de 600 morts et des milliers de blessés parmi les manifestants. Cependant, le paradoxe, c'est qu'un nouvel ordre politique s'est mis en place en Irak après la guerre contre l'État islamique. Les élections de 2018 avaient porté au pouvoir le bloc sadriste et surtout les milices chiites du groupe Fatah, issus de la guerre contre l'État islamique. Et ces élections, aujourd'hui, devraient renouveler cet ordre politique qui se met en place.
Alors la principale nouveauté, Arthur Quenet, de ces élections, c'est un changement du mode de scrutin pour désigner les 329 députés. Un changement qui est censé encourager de nouvelles candidatures hors parti et permettre l'entrée d'indépendants au Parlement. Pourquoi est-ce que les Irakiens ne semblent pas vouloir saisir la balle au bon? Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'attend aujourd'hui encore à un taux d'abstention record?
Alors c'est vrai que notre concession faite aux manifestants, c'est changer le type de scrutin. Donc on n'élit plus des candidats sur des listes, mais des candidats individuels, donc des candidats locaux. Et également une nouvelle carte électorale avec plus de districts. On passe de 18 à 83 districts de vote. Cependant, l'appareil partisan qui contrôle le système politique est toujours en place. Rien n'a changé de ce point de vue-là. Et c'est donc les mêmes leaders politiques qu'on retrouve aujourd'hui aux élections, malgré un nombre croissant de candidats indépendants. Hein, on a plus de 167 partis en liste pour ces élections. En fait, le jeu va se décider entre à peine une dizaine de groupes politiques.
Je lisais aussi Arthur Quenet que si finalement on s'attendait à une telle abstention, c'est parce que les candidats indépendants certains candidats en tout cas indépendants qui souhaitaient se présenter à ces élections, eh bien ils ont été menacés, il y a eu des représailles contre ces nouveaux venus sur la scène politique. C'est dû à quoi ça? C'est un rôle croissant des milices armées en Irak, comme on le dit souvent?
Ouais, c'est la conséquence de cet ordre politique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que sont au pouvoir des groupes miliciens, notamment des groupes miliciens pro-iraniens, qui sont largement intégrés dans les services de sécurité irakiens, dans la police, dans les forces de sécurité intérieure, et qui ont utilisé toutes ces ressources étatiques pour poursuivre les manifestants depuis 2 ans. Donc assassinats, exil, arrestations, tortures. En fait, il ne reste plus grand-chose du mouvement Tachrine, du mouvement de protestation, et des potentiels candidats qui, il y a 2 ans encore, espéraient pouvoir se présenter aux élections.
Est-ce qu'on a une idée, Arthur Quenet, de qui pourrait devenir Premier ministre à l'issue de ces élections? Autrement dit, le paysage politique irakien, c'est quoi aujourd'hui? Qui le domine? Qui en sont les principales figures?
Alors, peu importe qui sera Premier ministre, parce que ce Premier ministre sera au final faible. Actuellement, le Premier ministre Kademi est extrêmement faible, en fait. La réalité du pouvoir se répartit entre quelques forces politiques. C'est donc moins d'une dizaine de groupes politiques qui vont décider la nomination du Premier ministre après les élections, sur un processus qui va prendre très probablement plusieurs mois. Et ces principales forces donc sont probablement le mouvement sadriste, qui devrait maintenir ses voix, voire augmenter un peu le nombre de ses candidats. Et la question que se pose, c'est ensuite la répartition des voix entre les groupes chiites et kurdes qui suivent. C'est-à-dire que le mouvement Fatah, qui est donc la coalition de milices pro-iraniennes, pourrait avoir beaucoup moins de votes que les 48 représentants qu'il avait obtenus aux élections de 2018. Pourquoi ? Parce que sa base populaire s'est érodée dans la répression de la manifestation. Ces groupes sont de plus en plus vus comme pro-iraniens et honnis par la population. À ce moment, ça risque d'être le seul changement tangible de ces élections, un léger recul de ces milices.
Ça veut dire, Arthur Canet, que les pratiques actuelles vont perdurer, que ces pratiques qui ont été dénoncées il y a 2 ans vont continuer, la logique confessionnelle, les ingérences extérieures, tout ça ?
Tout à fait. Alors, il y aura moins de conflits politiques vu que maintenant les groupes pro-iraniens ont gagné, c'est-à-dire les États-Unis tendent à se retirer, donc il y a moins de conflits pour savoir quelle sera l'issue du système politique en Irak, hein, puisque de toute manière, ça y est, il est contrôlé par des groupes pro-iraniens. Par contre, les pratiques de ces groupes, évidemment, oui, vont continuer. Arrestation, répression, détournement de l'économie, fragmentation de l'État. L'État irakien ne va pas disparaître, absolument pas. Par contre, une nouvelle matrice politique est en train de naître en Irak et ces élections vont sûrement la réaffirmer à nouveau.
Une question encore, Arthur Canet, elle en est où la mobilisation massive d'il y a 2 ans, d'octobre 2019 ? Il y a à nouveau eu quelques rassemblements, hein, je crois, ces derniers jours en Irak, mais apparemment ça ne prend pas hein, comme il y a 2 ans.
Tout à fait, j'en parlais avec des amis activistes ce matin qui hésitaient encore à aller voter ou pas, et bien la plupart d'entre eux ne sont pas allés, parce que justement ils se savent suivis, ils ont peur d'être surveillés et d'être arrêtés en sortant du bureau de vote. La menace est extrêmement sérieuse sur les manifestants. Et alors, ces mobilisations pourraient reprendre, évidemment, hein, mais ce serait forcément d'un type nouveau. Et les gens qui se sont exposés il y a 2 ans sont en situation d'extrême extrême difficulté.
C'est la très forte répression de ces manifestations de 2019 qui a laissé des traces.
Oui, ça laisse des traces et la répression n'est pas finie, hein. Elle continue jusqu'à aujourd'hui. En 2019, il y avait une répression frontale contre les manifestants, mais elle se poursuit à travers des traçages, des filatures, des arrestations à domicile. En fait, la répression des milices chiites pro-iraniennes s'est adaptée à la situation. Elles sont plus discrètes, mais plus efficaces.
Merci beaucoup Arthur Canet, docteur en sciences politiques, affilié à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage qui s'intitule « La guerre civile irakienne, ordre partisan et politiques identitaires à Kirkouk 2003-2020 », un ouvrage paru aux éditions Cartala. Merci à vous.